Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons du Mali et cette question qui fait débat. Faut-il dialoguer avec les groupes djihadistes? Mardi, lors d'une conférence de presse à Bamako, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, a jugé impossible un dialogue avec les groupes terroristes qui n'ont pas signé les accords de paix. Dans la foulée, le premier ministre de transition, Mokhtar Ouane, a pris la parole, lui aussi interrogé par les journalistes, et il a immédiatement nuancé la position du ministre français des Affaires étrangères. Mokhtar Ouane a rappelé que cette option du dialogue était une recommandation du dialogue national inclusif et le premier ministre d'expliquer qu'il fallait voir dans cette possibilité du dialogue une opportunité. Alors faut-il, oui ou non, dialoguer avec les djihadistes? Cette approche vous semble-t-elle opportune ou au contraire la trouvez-vous choquante? On en parle évidemment ce matin. Vous êtes très nombreux sur la page Facebook de l'émission. Plusieurs centaines de commentaires postés. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Radio nous a contactés de Mandoury, c'est dans le nord-ouest du Togo. Bonjour Radio.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe technique d'Appel sur l'actualité.
Merci, merci d'être avec nous. Vous avez des questions concernant l'accord normalisant les relations entre le Soudan et Israël?
Tout à fait Juan. Donald Trump a annoncé la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et le Soudan. Alors, pourquoi le gouvernement soudanais prend le risque de signer un tel accord alors qu'une grande partie de sa population reste défavorable?
Ah, bonne question, Sébastien Nemeth. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Adieu.
Correspondant de RFI dans la région. Alors je ne sais pas si on peut l'affirmer aussi clairement, comme le disait à l'instant Radio, une grande partie des Soudanais serait contre la normalisation des relations avec Israël. En tout cas, il est vrai qu'une frange de la population est défavorable à cet accord. Dans ce contexte, expliquez-nous, Sébastien Nemeth, pourquoi le gouvernement soudanais a-t-il renoué les relations avec Israël?
Alors, tout simplement par pragmatisme, Juan, le deal, c'est quoi en fait le deal? C'est si le Soudan reconnaît Israël, ben les États-Unis retireront Khartoum de la liste des États sponsorisant le terrorisme.
Oui, d'ailleurs, la levée de cette sanction est en cours.
Voilà, Donald Trump a officiellement demandé au Congrès américain d'y mettre fin. Alors, les élus ont un mois et demi pour trancher, ça devrait tomber début décembre. L'inscription du Soudan sur la liste des États sponsorisant le terrorisme, qui est une liste américaine, elle a été décidée en 93. Elle empêche en fait le Soudan d'accéder à une grande partie du système financier international. Donc ça veut dire collaboration avec des grandes banques, accès à des prêts du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale, des allègements de dettes, etc. Or, eh bien, le Soudan est dans une situation économique extrêmement difficile, qui s'est d'ailleurs aggravée depuis la chute de Omar el-Béchir. On a plus de 200% d'inflation annuelle. Un dollar vaut 262 livres soudanais. C'était quand même 82 il y a à peine plus d'un an. Il y a des pénuries de pain, pénuries d'essence. Donc tout ça entraîne une grogne populaire de plus en plus forte d'ailleurs, avec des manifestations contre le gouvernement. Et à terme, c'est tout le processus de transition, même la stabilité du pays qui sont menacés. Donc le pouvoir soudanais décide de reconnaître Israël pour un peu sauver son économie et aussi la stabilité du pays. En tout cas, ça semble être le calcul.
Voilà, tout simplement par pragmatisme, comme vous nous le disiez à l'instant, Sébastien Nemeth. Vous avez une autre question, Radio.
Quel bénéfice va tirer Khartoum de cette relation auprès de l'Israël?
Ah, bonne question là aussi. Vous en parliez déjà, Sébastien Nemeth. En substance, ce retrait de la liste des États soutenant le terrorisme, ce n'est pas rien.
Voilà, ça va donner au Soudan de nouveau accès à toute une partie du système financier international et à terme, en théorie, soulager son économie. Comme j'ai dit, bon, faut pas se leurrer, les effets vont pas se faire sentir comme ça du jour au lendemain. Néanmoins, on a déjà quand même quelques bénéfices puisque les États-Unis se seraient engagés à travailler pour soulager le Soudan de sa dette étrangère, qui est quand même de 60 milliards de dollars. Ensuite, on a déjà une petite coopération avec Israël qui s'instaure. Tel Aviv a annoncé l'envoi immédiat d'une cargaison de blé pour 5 millions de dollars. C'est quand même la première transaction commerciale entre les deux pays depuis plus d'un demi-siècle. L'agence de presse soudanaise a dévoilé aussi que les Émirats arabes unis, qui ont reconnu Israël il y a deux mois, avaient déjà envoyé 67 000 tonnes de blé. Il y a des discussions avec le programme alimentaire mondial pour 40 000 tonnes supplémentaires. Donc on a, semble-t-il, une sorte d'aide humanitaire qui se met un petit peu en place, comme ça, et en provenance de pays et organisations étrangères.
Oui. Le bénéfice de ce rapprochement avec Israël et de la levée des sanctions devrait aussi être à la fois politique et diplomatique.
Voilà, il y a un avantage en interne, si vous voulez. Le nouveau pouvoir soudanais a toujours dit que le retrait de la liste, c'était une priorité. Donc l'annonce des Américains, c'est une victoire très importante pour la transition. Il y a aussi peut-être un calcul des militaires, qui partagent le pouvoir avec les civils. Ensuite, ça réintègre un peu plus le Soudan dans le concert des nations. Le pays sera plus traité comme un paria. Et cette meilleure image sur la scène internationale va lui faciliter la tâche pour les points que j'ai évoqués, notamment tenter de sauver cette économie. Ça va donner des facilités, de la liberté d'action au gouvernement. Enfin, un mot donc des militaires qui partagent le pouvoir avec les civils, qui étaient favorables au rapprochement avec Israël. Il y a très probablement un calcul derrière, comme j'ai mentionné, réussir la transition, relancer l'économie, replacer le Soudan sur la scène internationale. Ça va leur accorder du crédit sur le plan national, avec pour objectif final, eh bien, de garder peut-être le pouvoir, peut-être de remporter les élections post-transition et ne jamais assumer, eh bien, les responsabilités pour les crimes commis sous l'ancien régime, sous Omar el-Béchir.
Radio, a-t-on répondu à vos questions?
Merci, Juan, je suis satisfait. Merci à Sébastien Nemeth.
Correspondant de RFI dans la sous-région. Merci à tous les deux. Bonne journée. 9h17 ici à Paris. On repasse très vite au standard. 33 9 693 693 70. Mokhtar Amadou, bonjour.
Oui, bonjour Gomez. Bonjour à les auditeurs de RFI, plus précisément ceux de Dundiou, région de Dosso.
Voilà, d'où vous nous appelez, Dundiou, dans le sud-ouest du Niger. Vous avez des questions concernant la présidentielle aux États-Unis?
Oui, effectivement, Gomez.
On vous écoute.
Donc, le 3 novembre prochain aura lieu le présidentiel de l'Amérique. Et pour le moment, le sondage juge quasiment le démocrate Joe Biden favori. Mais pourtant, en 2016, le sondeur donnait Hillary Clinton, mais le résultat sortant des urnes, et contrairement à leur sondage.
Oui.
Ma première question, les institutions de sondage ont-ils tiré des leçons de leur mauvaise estimation de 2016?
Ah bah vous savez quoi? Pour vous répondre, nous avons contacté le directeur d'études à l'Institut de sondage Ipsos, Mathieu Gallard. Bonjour.
Bonjour.
Quatre ans après la présidentielle aux États-Unis, les résultats de 2016 continuent de hanter la mémoire des instituts de sondage. C'est vrai que les instituts à l'époque s'étaient quelque peu trompés. Faut-il faire confiance aux sondages qui donnent Joe Biden en tête face à Donald Trump?
Alors, les sondages s'étaient trompés en 2016. Ils s'étaient pas trompés au niveau national et dans la plupart des États, mais en fait, effectivement, dans trois États, ils voyaient Hillary Clinton en tête, alors que c'est Donald Trump qui l'a remporté, et ça a suffi à lui faire gagner la présidence. Donc, effectivement, ça n'était pas très satisfaisant. Et donc, on a enquêté pour savoir ce qui s'était passé, et on a conclu que c'était notamment lié à une mauvaise évaluation du niveau de diplôme des personnes qu'on interviewait. En fait, dans le passé, aux États-Unis, le niveau de diplôme, ça n'était pas vraiment une variable qui expliquait le vote des électeurs. Et depuis quelques élections, et notamment en 2016, on a constaté que les personnes qui ont un diplôme du supérieur, un diplôme universitaire, votent massivement démocrate, alors que les personnes qui ont un plus faible niveau de diplôme votent beaucoup plus républicain. Mmh. Et donc, on a fait en sorte, pour ces élections de 2020, mais aussi pour les précédentes élections en 2018, les élections de 2020, d'avoir des échantillons qui soient représentatifs aussi en termes de niveau de diplôme de la population des États sur lesquels on enquête, et en principe, ça devrait effectivement considérablement améliorer la qualité des sondages qu'on réalise. On l'a déjà constaté lors des élections de mi-mandat il y a deux ans.
Ouais. Et ce qui facilite la tâche des instituts de sondage, c'est le nombre d'indécis. Visiblement, en 2016, ils étaient bien plus nombreux que cette année.
Oui, en 2016, dans les États clés qui ont fait basculer l'élection, il y avait environ 10% d'indécis. Et au dernier moment, on s'est rendu compte, après le scrutin, qu'ils avaient massivement voté pour Donald Trump. Cette année, il y en a beaucoup moins, 3, 4, 5% selon les États. Donc déjà, ça fait beaucoup moins de chances que ça change profondément nos chiffres. Et en plus, quand on regarde qui sont ces indécis, en termes de profil sociodémographique ou en termes idéologiques, quelles sont leurs valeurs, on constate qu'ils sont beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus semblables à l'Américain moyen, on va dire. Et donc, il y a peu de chances qu'ils basculent aussi massivement, que ça soit pour Trump ou pour Biden d'ailleurs. Donc a priori, nos derniers chiffres devraient pas être bousculés par le vote des indécis.
Donc les sondages sont plus fiables qu'en 2016.
Oui, exactement. On a fait en sorte effectivement de tirer les leçons de 2016 et voilà, maintenant on croise les doigts.
Vous croisez les doigts. Joe Biden est en tête, hein, 8 à 10 points selon les instituts de sondage. Vous confirmez, Mathieu Gallard?
Oui, au niveau national, il est national. En tête de 8 à 10 points. Normalement, avec 8 à 10 points d'avance, vous l'emportez aussi au collège électoral où il y a une disproportion en faveur des Républicains, mais pas à ce point-là non plus.
Oui, collège électoral, je rappelle simplement aux auditeurs, même s'ils l'ont en tête, mais c'est important, c'est que ce sont les grands électeurs qui élisent le président. Il en faut 270 pour être élu. Et vu l'avance de Biden, tout porte à croire qui les aura. C'est 270.
Oui, après, voilà, exactement.
J'ai bien tout porte à croire.
Voilà, après, voilà, dans un certain nombre d'États, son avance est quand même limitée. Donc voilà, encore à surveiller dans les jours à venir pour voir s'il n'y a pas d'évolution de l'opinion.
Bien, merci beaucoup Mathieu Gallard d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Mokhtar Hamadou qui nous appelait du Niger. Mathieu Gallard, directeur d'études à Ipsos, 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous écoutez le journal, vous souhaitez un complément d'information, eh bien vous nous contactez, soit directement par le standard, soit sur les réseaux sociaux, la page Facebook de l'émission ou sinon le compte WhatsApp d'Appel sur l'actualité. Bonjour Roger.
Bonjour Anne, bonjour Roger.
Alors on va tendre l'oreille, hein. Vous nous appelez de Lubumbashi, visiblement il y a un peu de bruit, il y a du monde autour de vous. Vos questions Roger.
Ok, monsieur Anne, certains pays musulmans,
oui,
ont lancé des campagnes au boycott des produits français.
Alors attendez, visiblement vous avez un problème et nous aussi on a un problème. Roger, vous êtes dérangé par le retour que vous avez. Peut-être avez-vous gardé la radio allumée à côté de vous, je ne sais pas. Je me fais votre porte-parole puisque je connais votre question. Vous nous l'avez donnée bien évidemment avant le début de l'émission. Vous souhaitez revenir sur cette campagne de boycott lancée dans plusieurs pays musulmans contre les produits français après les propos du président Emmanuel Macron sur le droit de caricaturer le prophète Mahomet. Et vous vouliez savoir quelles pouvaient être les conséquences économiques pour l'économie française et s'il y avait des conséquences, quels étaient les principaux secteurs menacés. Agnieszka Kumor, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service éco de RFI, quel peut être l'impact de ces appels au boycott pour l'économie française?
Alors Juan, il est évidemment encore trop tôt pour donner des chiffres, mais comme l'a indiqué le ministre délégué au commerce extérieur, Franck Riester, il devrait y avoir des impacts économiques, évidemment. Selon lui, ce boycott est pour l'instant très circonscrit, limité à un certain nombre de produits alimentaires. Les entreprises concernées représentent en effet surtout le secteur de l'agroalimentaire. Le ministre a cité Bell, Lactalis et Danone. Pour Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, aucune aide publique pour soutenir les entreprises n'est pour le moment nécessaire. Le marché du proche et du moyen en Orient représente très seulement 3% de l'ensemble des exportations du secteur agroalimentaire. Et puis, globalement, les échanges commerciaux entre la France et ces pays sont assez faibles. À titre d'exemple, en 2019, les exportations françaises vers la Turquie atteignaient presque 6 milliards d'euros. Très, très loin, par exemple, des 70 milliards d'euros de biens vendus au cours de la même année à l'Allemagne.
Donc ces appels au boycott auront, on utilise le conditionnel, évidemment, peu d'effet sur l'économie française, puisque les pays concernés par ces appels au boycott ne sont pas, si j'en crois vos explications, Agnieszka Kumor, des partenaires commerciaux de premier plan. Parmi ces pays, on cite la Turquie, le Qatar, le Koweït, la Jordanie, le Bangladesh. Roger voulait savoir s'il y avait déjà eu ce type de boycott par le passé pour des raisons similaires.
Alors, pour des raisons similaires, pas vraiment. Pour la France, le boycott de ces produits est une première. On se souvient quand même de la réaction quasi unanime du monde musulman après la publication des caricatures de Mao Bey dans un journal danois en 2005. À l'époque, les produits danois ont complètement disparu des supermarchés dans ces pays. Cette fois, le boycott dont fait l'objet la France est de moindre ampleur. Cependant, dans le passé, l'Hexagone a été visé par d'autres formes de protestation. En 2008, par exemple, plusieurs pays arabes, dont le Liban et l'Égypte, ont refusé de se rendre au Salon du Livre de Paris parce qu'il avait choisi comme invité d'honneur Israël. En Italie, la même polémique a eu lieu avec la Foire du Livre de Turin, dont Israël avait été également l'invité d'honneur la même année.
Merci Agnieszka Kumor d'avoir répondu à Roger. J'espère qu'il a pu écouter vos explications, Roger, qui nous appelait de Lubumbashi. Dernière question du jour, elle nous vient du Sénégal. Ousmane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Louga, c'est bien ça ?
C'est ça,
c'est ça. Dans le nord-ouest du pays, vous avez des questions concernant les combats dans le Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
Effectivement, Juan, j'ai deux petites questions. L'Iran a annoncé le déploiement de troupes à la frontière avec le Haut-Karabakh pour certainement protéger son territoire. Bon, ma question, l'Iran craint-elle pour son intégrité territoriale ?
Ah oui, effectivement. Bonne question. On a vu des troupes le long de la frontière, car il faut avoir la carte en tête. Hein. L'Iran possède des frontières communes avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan, des frontières également avec le Haut-Karabakh. Vincent Effling, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au Centre d'études et des conflits internationaux de l'Université catholique de Louvain en Belgique, spécialiste de l'Iran. Comment expliquer la réaction de l'armée iranienne ?
Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord savoir que l'Iran comporte une importante communauté azérie qui représente entre 15 et 20 millions d'individus pour un total de 82 millions d'habitants en Iran. D'un autre côté, la population de la République d'Azerbaïdjan ne comprend elle que 10 millions d'individus. Il y a donc plus d'Azéris, ethniquement parlant, en Iran qu'en République d'Azerbaïdjan. Et d'ailleurs, l'actuel guide suprême iranien, Ali Khamenei, le chef de l'État, est lui-même un Azéri sur le plan ethnique. Pendant la guerre froide, également au lendemain de celle-ci, Téhéran a craint que l'URSS d'abord et puis la République d'Azerbaïdjan ne cherchent à instrumentaliser cette importante communauté azérie au détriment de l'intégralité territoriale de l'Iran. Il y a donc eu pendant très longtemps cette peur d'une cinquième colonne azérie au sein du territoire iranien qui pourrait agir contre la République islamique en faveur de la création d'un grand Azerbaïdjan unifié.
Donc attendez, Vincent Effling, le sujet est complexe. Si je comprends bien, l'armée iranienne déploie ses troupes le long de la frontière par crainte d'un soulèvement de la communauté azérie au sein même du territoire iranien ?
Alors c'est un peu plus compliqué que ça, hein, puisqu'aujourd'hui cette crainte est partiellement retombée. Mais elle n'a pas totalement disparu. En dépit du fait que les relations avec Bakou se sont réchauffées ces 10 dernières années, et les Azéris aujourd'hui en Iran ont été dans une très large majorité, ce qu'on pourrait dire iranisée, mais cette crainte trouve un nouveau souffle avec le conflit déstabilisateur au Nagorno-Karabakh, car ce conflit excite les réflexions, débats politiques au sein de la communauté azérie d'Iran, et il exacerbe le nationalisme et la solidarité azérie. D'ailleurs, il y a eu des manifestations à Tabriz et à Téhéran en faveur d'un soutien de l'Iran à l'Azerbaïdjan. Et à court terme, l'Iran ne craint rien pour son intégrité territoriale. On déploie des troupes parce qu'effectivement, il y a aussi la valeur symbolique de montrer qu'il y a quand même une réaction par rapport au fait qu'il y a eu des bombes qui sont tombées sur le territoire iranien et qu'on joue aussi la carte nationaliste iranienne à Téhéran. Mais il y a une crainte, en revanche, que s'il y a un prolongement du conflit, eh bien celui-ci ne vienne réveiller suffisamment le nationalisme azéri au sein d'une tranche même réduite de la population azérie d'Iran, ce qui pourrait à terme susciter de nouveaux problèmes pour la République islamique et la déstabiliser sur son flanc nord.
Oui.
Téhéran a donc tout intérêt à ce que le conflit ne s'éternise pas, et ce d'autant plus que si l'Iran devait choisir un camp, eh bien il ferait face vraiment à un dilemme, où peu importe quel camp il choisirait, ce choix s'accompagnerait de répercussions négatives.
Oui, il y a 30 millions de personnes azéries en Iran, sur 80 millions d'habitants, mais n'oublions pas qu'il y a également une communauté arménienne qui vit en Iran, certes beaucoup moins importante, hein, 300 000 personnes qui, d'origine iranienne en Iran, mais voilà, arménienne, pardon, en Iran. Donc voilà, on a bien compris les enjeux, les inquiétudes de Téhéran. Merci beaucoup, Vincent Effling, d'avoir été avec nous. Je remercie Ousmane, hein, qui nous appelait du Sénégal. On va marquer une pause. On retrouve l'ensemble du service Service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on revient tout de suite après avec cette question qui fait débat au Mali, à Bamako. Faut-il, oui ou non, dialoguer avec les djihadistes? À tout de suite.